On va entrer progressivement dans la ténèbre, en fait. Alors pourquoi la ténèbre? Pourquoi office de ténèbres? Parce que depuis hier soir, où nous suivons le Christ, il y a eu cette arrestation à Gethsémani, et à son arrestation, Jésus dit « C'est maintenant l'heure des ténèbres ». C'est-à-dire qu'on a l'impression que les ténèbres ont pris le dessus, en fait. Et la lumière du Christ, la force de Dieu, va être pendant quelques heures presque mise sous l'étai noir, du coup, pour reprendre l'image. C'est l'heure des ténèbres. Et donc nous allons petit à petit plonger dans ces ténèbres jusqu'à samedi soir, où la lumière de la Pâque va sortir victorieuse finalement de ce combat. Donc, office des ténèbres. Et effectivement, à la fin de l'office, la chapelle sera plongée dans l'obscurité. Il n'y aura plus qu'un seul cierge allumé, qui est cette présence du Christ au cœur même de la ténèbre, mais une présence tellement faible, on pourrait presque dire, tellement ténue. Hein. Et donc, c'est un très bel office.
Excusez-moi,
Oui.
Étienne Dallaire, je me permets, par ce jeu de lumière, en fait, c'est une espèce de mise en abîme de ce que nous vivons aujourd'hui avec la passion du Christ et sa mort. Hein, c'est.
Oui, tout à fait. On va vivre une descente hein, aujourd'hui. Tout à l'heure, vous parliez de qu'est-ce qu'a fait le Christ le soir du Jeudi Saint. Bon, il y a toute cette nuit qu'il passe dans l'obscurité de la prison du grand prêtre. Parce que vous savez que comme les Juifs avaient quand même une certaine marge. Donnés par les Romains, ils avaient leur tribunal, ils avaient donc aussi les gardes du temple, et ce tribunal était capable de juger des gens et de les condamner. Bon, pas les condamner jusqu'à la mort, mais de les condamner quand même, par exemple, à de l'emprisonnement. Donc, en dessous du palais du grand prêtre, il y avait des cachots.
Vous avez accompagné beaucoup de pèlerinages en Terre Sainte.
Oui.
Vous connaissez donc ce lieu supposé.
Saint-Pierre en Galicante. Hein, il y a une église qui a été construite, Saint-Pierre en Galicante. Donc Galicante, c'est le coq qui chante, hein, qui est située sur les hauteurs de la vieille ville de Jérusalem, ce qu'on appelle le Mont Sion, traditionnellement. Et sous le palais du grand prêtre, il y avait donc des cachots dans lesquels on pouvait emprisonner. Alors Jésus a été enfermé là. Les apôtres, ça leur arrivera plus d'une fois d'être enfermés là, de recevoir des coups de verge. Et alors on visite ces cachots, c'est assez impressionnant, quoi, parce que il y a dans les murs encore, dans certaines pierres, la trace du trou qui permettait de mettre un anneau pour que le prisonnier soit attaché au pilier. Et puis il y a ces fameuses citernes. C'est une ancienne citerne. Alors, une citerne, ça avait la forme, on va dire, d'une bouteille, en gros. Et il y avait un goulot, puis ensuite quelque chose d'assez haut et d'évasé. Et on recueillait l'eau, on la gardait là-dedans. Et quand la citerne était désaffectée, eh bien, effectivement, on pouvait s'en servir pour mettre quelqu'un dedans. Et on peut penser que Jésus, effectivement, était, pendant une bonne partie de la nuit en tout cas, suspendu à une corde dans cette citerne. Donc, oui, il y a à la fois l'obscurité, le vertige, parce qu'au bout d'une corde, on reste pas immobile, hein, ça tourne toujours un peu, etc. Et donc c'est très impressionnant, on peut descendre dans cette citerne, il y a un petit escalier qui a été fait, et on arrive au fond de la citerne. Alors,
Et
oui.
cette plongée dans le noir que l'on va vivre avec cet office, est-ce que les chrétiens sont également invités à la vivre durant cette journée? Est-ce que c'est un jour un peu de contrition, de triste?
Ben, en principe, oui. Je me souviens quand j'étais enfant, il y a un truc qui me pesait beaucoup, c'est que le Vendredi Saint, mes parents nous interdisaient d'écouter de la musique, par exemple. Ça paraissait long, cette journée sans musique. C'était épouvantable. Et puis, il suffit que ça soit interdit pour qu'on en ait une envie décuplée,
Folle,
quoi.
oui.
Voilà. Donc, c'est vrai que le Vendredi Saint, on a quelque chose à vivre, y compris dans son corps, je pense, hein. et beaucoup de chrétiens jeûnent le jour du Vendredi Saint. On essaye de ne pas se laisser perturber. Alors c'est difficile, hein, parce que dans la vie courante, beaucoup de gens travaillent le jour du Vendredi Saint. Donc la vie est comme d'habitude, quoi. Mais je pense qu'intérieurement, il y a moyen de vivre quelque chose
une
de fort.
Une petite mort.
Bah, disons un accompagnement de Jésus. Hein. Et alors les ténèbres veut dire aussi qu'on voit rien. C'est-à-dire que c'est un moment où on voit plus trop, on comprend même plus trop qu'est-ce qui se passe. Pourquoi Jésus vit ça? Est-ce que c'est absolument obligatoire? Moi, c'est la question que souvent je me suis posée. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il a fallu que Jésus vive sa passion, quoi? Il ne pouvait pas faire autrement. Il ne pouvait pas sauver le monde autrement. Je sais pas, mais on aurait pu imaginer qu'il arrive du haut du ciel, le ciel s'ouvre, il descend, il dit ça suffit maintenant, on va remettre de l'ordre là-dedans, etc. Quoi.
Et est-ce que vous avez une réponse? Parce que je suis sûre que parmi ceux qui nous écoutent, nombreux sont ceux qui se la posent, cette question.
Bah, la seule réponse que j'ai, c'est de me dire, si Dieu a demandé ça à Jésus et lui a fait vivre ça, c'est qu'il n'y avait pas d'autre chemin. Voilà, c'est la seule réponse que j'ai.
Et puis c'était écrit surtout.
Oui, et je pense que c'était le chemin. Même si ça nous dépasse complètement et on ne voit pas trop le rapport. Enfin, si, on voit le rapport, mais oui, effectivement, on se dit qu'il aurait pu inventer autre chose, quoi.
Oui, voilà. Puisqu'il est Dieu.
Il y a un détail, dans le monastère, les icônes, les statues sont recouverts de draps violets.
Depuis hier soir,
voilà,
oui.
Et c'est le cas probablement dans tous les monastères et communautés.
Oui, oui, c'est traditionnel, oui.
Voilà, vous pouvez en dire quelques mots de cela?
Bah, c'est parce que tout d'un coup, on est privé de la présence de Jésus. Mmh. Il a été arrêté, embarqué dans les prisons du Sanhédrin, et on va être comme privé de sa présence. Donc on cache toute image qui pourrait encore représenter soit Jésus, soit même une statue de saint, etc. On est plongé dans le noir, en fait. Hein,
avec quand même cette petite lumière très faible, vous disiez, hein, qui reste
voilà, qui va rester
ténue.
Parce que au cœur même de l'obscurité la plus profonde, il reste cette présence.
Un fil.
Oui, ténu. Oui. C'est beau aussi, moi, si on a encore une minute.
On a une minute, justement.
De penser qu'au moment où Jésus est en quelque sorte pendu dans sa citerne, il y en a un autre qui va être pendu à la branche d'un arbre, c'est Judas. Ouais. Donc c'est comme si Jésus rejoignait Judas dans la profondeur de sa détresse, en fin de compte. Et je crois que le message qui est très fort qu'on ressent dans cette citerne, c'est qu'il n'y a aucune détresse humaine que Jésus ne peut pas venir rejoindre. Même dans la détresse la plus profonde, il vient nous rejoindre.
Il vit ce que vit celui qui l'a trahi.
Il épouse en fait notre propre détresse.
Il y a d'ailleurs une image, non, presque qui se dessine dans la citerne. Je ne sais pas si elle a été crayonnée ou pas, mais c'est quelque chose de frappant quand on voit dans cette citerne.
Oui, elle est un peu inexplicable. Hein. C'est comme si la silhouette de Jésus avait été projetée contre le mur de la citerne et elle est restée là. Dans la pierre. Oui, c'est vrai que c'est très fort.
Voilà, et ben on va vivre cet office des ténèbres avec vous. Merci à vous, Étienne Dallaire.
Alors, nous allons nous rendre à la chapelle. Nous sommes toujours donc en direct du monastère Sainte-Catherine de Blagnac et nous allons vivre cet office de ténèbres avec la communauté des Béatitudes.
For so dominus filiam, si
L'office a donc commencé par les Lamentations de Jérémie. Le texte est extrait du livre des Lamentations. Et la liturgie est venue donc de la tradition mozarabe. Nous entrons donc dans le premier nocturne qui commence par le psaume 2. Les rois de la terre se lèvent, les princes conspirent contre le Seigneur et contre son Christ. Après ce psaume 2 va prendre place la première lecture. C'est un extrait du livre de la Genèse au chapitre 37, un petit extrait de l'histoire de Joseph. Joseph le patriarche, vendu par ses frères. Il y a là un parallèle très fort entre Joseph et Jésus, lui aussi vendu par ses frères, jeté au fond d'une citerne, comme nous l'avons évoqué. On vient d'éteindre donc la première bougie de ce chandelier.
Ne sois pas loin, proche l'angoisse. est pareil à la cire, il fonde au milieu de mes entrailles. Mon palais est sec comme un tesson, ma langue est collée à la mâchoire.
Des chiens me servent, il est bon de revenir à mon soleil. Il me teste les mains et les pieds, il me couche dans la poussière de l'amour.
Je peux compter tous mes os, ces chambres toises me surveillent. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô ma force vit à mon aile. Délivre de l'épée mon âme, de la patte du chien mon humilié.
Sauve-moi de la gueule du lion, de la corne du taureau, ma pauvre âme. J'annoncerai ton nom à mes frères, en pleine assemblée je te louerai.
Ton Dieu, louez-le, race de Jacob, glorifiez-le, redoutez-le, race d'Israël.
Car il n'a point méprisé, ni dédaigner la pauvreté du pauvre, ni cacher de lui sa face, mais invoqué par lui, il écouta.
C'est lui qui sera ma louange dans la grande assemblée. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui le craignent.
Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent, que vive le cœur au siècle des siècles.
La terre entière se souviendra, elle reviendra vers le Seigneur, et les familles des nations se prosterneront devant lui.
Ô Seigneur, la royauté, ô Maître des nations, devant lui se prosterneront les puissants de la terre. Devant lui se courberont ceux qui descendent à la poussière.
Et mon âme vivra pour lui, ma race le servira. On annoncera le Seigneur aux sages à venir, et sa justice au peuple à mettre.
Nous venons d'entendre le psaume 21. Il faut bien réaliser que ces chants que nous entendons en ce moment n'ont pas été écrits après la mort et la résurrection du Christ pour décrire ce qu'il a vécu, mais sont tous des psaumes, c'est-à-dire ont été rédigés plusieurs siècles avant la passion de Jésus, parfois même 1000 ans avant Jésus. Mais ils décrivent avec une telle précision ce que Jésus va vivre au cours de sa passion, qu'effectivement c'est tout à fait bouleversant. Le psaume 26 maintenant que nous entendons, « Comme moi, contre moi se sont levés de faux témoins, ils sont égarés dans leurs mensonges. »
Ne m'abandonne jamais, Seigneur, Dieu de mon salut, si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra.
Enseigne-moi, Seigneur, ta voie.
Moi se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence. Je le crois, je verrai la bonté de Dieu sur la terre des vivants.
Espérons Dieu, grandeur et grand courage. Espérons Dieu, gloire au Père.
La première lecture donc de ce premier nocturne consacré au procès de Jésus est un extrait de l'histoire de Joseph, le patriarche, trahi par ses frères, vendu, jeté dans les cachots de Pharaon, mais pour devenir ensuite vice-roi d'Égypte.
Un homme le rencontra errant dans la campagne et cet homme lui demanda « Que cherches-tu ? » Il répondit « Je cherche mes frères. Indique-moi, je te prie, où ils paissent leur troupeau. » L'homme dit, « Ils ont décampé d'ici. Je les ai entendus qui disaient, « Allons à Dothan. » Joseph partit en quête de ses frères et il les trouva à Dothan. Il aperçut de loin et avant qu'il n'arrivât près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent entre eux, « Voilà l'homme au songe qui arrive. Maintenant, venez, tuons-le et jetons-le dans n'importe quelle citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Nous allons voir ce qu'il adviendra de ses songes. » Mais Ruben entendit et il le sauva de leurs mains. Il dit, n'attendons pas à sa vie. Ruben leur dit, ne répandez pas le sang. Jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. C'était pour le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Donc, lorsque Joseph arriva près de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique ornée qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne. C'était une citerne vide où il n'y avait pas d'eau. Puis ils s'assirent pour manger.
La première lecture va être suivie de versets psalmodiés. Il y eut des ténèbres sur la terre quand les soldats mirent Jésus en croix.
Oh,
La deuxième lecture va être extraite du livre de Job. C'est tout le problème de l'homme confronté au mal et au mal qui semble injuste.
Mais quand je parle, ma souffrance ne cesse pas. Si je me tais, en quoi disparaît-elle ? Et maintenant, elle me pousse à bout. Tu as frappé d'horreur tout mon entourage, et il me presse. Mon calomniateur s'est fait mon témoin. Il se dresse contre moi. Il m'accuse en face. Sa colère déchire et me poursuit en montrant des dents grinçantes. Mes adversaires aiguisent sur moi leurs regards, ouvrent une bouche menaçante. Leurs railleries m'atteignent comme des soufflets. Ensemble, ils s'ameutent contre moi. Oui, Dieu m'a livré à des injustes. Entre les mains des méchants, il m'a jeté. Je vivais tranquille quand il m'a fait chanceler, saisi par la nuque pour me briser. Il a fait de moi sa cible. Il me cerne de ses traits, transperce mes reins sans pitié et répand à terre mon fiel. Il ouvre en moi brèche sur brèche, fonce sur moi tel un guerrier. J'ai cousu un sac sur ma peau, jeté mon front dans la poussière. Mon visage est rougi par les larmes et l'ombre couvre mes paupières. Pourtant, point de violence dans mes mains et ma prière est pure. Ô terre, ne couvre point mon sang et que mon cri monte sans arrêt. Dès maintenant, j'ai dans les cieux un témoin. Là-haut se tient mon défenseur, interprète de mes pensées auprès de Dieu, devant qui coulent mes larmes.
Suite à la lecture de Job, de nouveau les versets, il y eut des ténèbres sur la terre quand les soldats mirent Jésus en croix.
Mais je sais, oh,
La troisième et dernière lecture de ce premier nocturne est extrait de l'Épître aux Éphésiens. Petite hésitation quant au lecteur, le voilà qui arrive.
Lecture de l'Épître de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Rappelez-vous donc qu'autrefois, vous les païens qui étiez tels dans la chair, rappelez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez dans le Christ, exclus de la cité d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant ni espérance ni Dieu en ce monde. Or, voici qu'à présent, dans le Christ Jésus, vous qui jadis étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sang du Christ. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un, détruisant la barrière qui les séparait, supprimant en sa chair la haine, cette loi des préceptes avec ses ordonnances, pour créer en sa personne les deux, en un seul homme nouveau, faire la paix et les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps, par la croix, en sa personne, il a tué la haine. Alors, il est venu proclamer la paix, paix pour vous qui étiez loin et paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, nous avons en effet, tous deux en un seul esprit, libre accès auprès du Père. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des hôtes. Vous êtes citoyens des saints, vous êtes de la maison de Dieu. Car la construction que vous êtes a pour fondation les apôtres et prophètes et pour pierre d'angle le Christ Jésus lui-même. En lui, toute construction s'ajuste et grandit en un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu dans l'Esprit.
Ainsi s'achève le premier nocturne. Nous allons entrer dans le second. Le thème de ce deuxième nocturne, le juste souffrant, donne sa vie librement. Et nous commençons avec le psaume 37.
Et
Le second nocturne, donc, comportera trois psaumes, le psaume 37, 39 et 53. Puis ensuite, vous commencez à comprendre comment se déroulent les choses, il y aura trois lectures, à chaque fois entrecoupées de versets psalmodiés. Second psaume sera le psaume 39. Tu n'as voulu ni holocauste, ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens.
Alors j'ai dit, voici, je viens. sachez, ton amour est en vérité à la grande assemblée.
Toi, ne ferme pas des tendresses pour moi, Seigneur, puisse ton amour et ta vérité sans cesse me garder.
Car les malheurs m'assiègent à ne pouvoir les dénombrer.
Mes torts tombent sur moi, à en perdre la vue, plus foisonnant que les cheveux de ma tête, le cœur me manque.
Daigne, Seigneur, me secourir, vite à mon aide. Honte et déshonneur sur tout cela qui cherche mon âme.
Aïe, boni soit-il, ce que flatte mon malheur, qui soit méfié de honte, ceux qui disent Seigneur faire.
Joie en toi, réjouissance à tous ceux qui te cherchent. Qu'ils redisent toujours « Dieu est grand », ceux qui aiment ton salut.
Et moi, misérable et pauvre, ô Maître, viens vite. Toi, mon secours et mon sauveur, mon Dieu, ne tarde pas. Rends gloire au Père Tout-Puissant,
troisième psaume de ce second nocturne, le psaume 53. Des étrangers se dressent contre moi, des violents cherchent ma mort.
Des étrangers se dressent contre moi, des violents cherchent ma mort.
Des étrangers se
Seigneur, avec ceux qui me soutiennent, que retombe le mal sur mes tyrans. Seigneur, par ta vérité, détruis-les.
De mon cœur, je t'offrirai le sacrifice. Je rendrai grâce à ton nom, car il est bon. Lui m'a délivré de toute angoisse. Mais elle
La première lecture de ce second ténèbre, second nocturne, est extraite du livre de l'Exode au chapitre 12.
Sermon de saint Éphrem. Aujourd'hui s'avance la croix, la création exulte, la croix, chemin des égarés, espoir des chrétiens, prédication des apôtres, sécurité de l'univers, fondement de l'Église, fontaine pour ceux qui ont soif. Aujourd'hui s'avance la croix et les enfers sont ébranlés. Les mains de Jésus sont fixées par les clous et les liens qui attachaient les morts sont déliés. Aujourd'hui, le sang qui ruisselle de la croix parvient jusqu'au tombeau et fait germer la vie dans les enfers. Dans une grande douceur, Jésus est conduit à la passion, bénissant ses douleurs à toute heure. Il est conduit au jugement de Pilate, qui siège au prétoire. À la sixième heure, on le raille. Jusqu'à la neuvième heure, il supporte la douleur des clous. Puis sa mort met fin à sa passion. À la douzième heure, il est déposé de la croix. On dirait un lion qui dort. Alors, il descend aux enfers, désirant voir les justes qui se reposent de leur fatigue, et il les passe en revue, comme un roi regardant son armée au repos à l'heure de midi. Il dit, « Me voici, je viens. » Et toute l'armée se dresse aussitôt.
Le verset psalmodié, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. » Suivons cet office de ténèbres en direct du monastère Sainte-Catherine de Blagnac et nous vivons ce temps avec la communauté des Béatitudes.
Mais revenons à la passion. Pendant le jugement, la sagesse se tait et la parole ne dit rien. Ses ennemis le méprisent et le mettent en croix. Aussitôt, l'univers est ébranlé, le jour disparaît et le ciel s'obscurcit. On le couvre d'un vêtement dérisoire. On le crucifie entre deux brigands. Ceux à qui, hier, il avait donné son corps en nourriture en le regardant mourir de loin. Pierre, le premier des apôtres, a fui le premier. André aussi a pris la fuite. Et Jean, qui reposait sur son côté, n'a pas empêché un soldat de percer ce côté de sa lance. Le cœur des 12 s'est enfui. Ils n'ont pas dit un mot pour lui, eux pour qui il donne sa vie. Lazare n'est pas là, qu'il a rappelé à la vie. L'aveugle n'a pas pleuré, celui qui a ouvert ses yeux à la lumière. Et le boiteux, qui grâce à lui pouvait marcher, n'a pas couru auprès de lui. Seul un bandit crucifié à son côté le confesse et l'appelle son roi, au scandale des Juifs. Ô larron, fleur précoce de l'arbre de la croix, premier fruit du bois de Golgotha.
Les lectures de ce nocturne sont donc un extrait d'un sermon de saint Ephrem. Ephrem était un diacre de l'église syrienne qui vécut au IVe siècle et qui est connu pour avoir écrit et composé un certain nombre d'hymnes à la Vierge Marie. Vous avez remarqué, les répons évoquent la venue du Christ à travers la figure sermon prophétique du guerrier et puis ensuite la crucifixion.
Désormais par la croix, les ombres sont dissipées et la vérité se lève, comme nous le dit l'apôtre. L'ancien monde est passé, toutes choses sont nouvelles. La mort est dépouillée, l'enfer livre ses captifs. L'homme est libre, le Seigneur règne, la création est dans la joie. La croix triomphe et toutes les nations, tribus, langues et peuples viennent pour l'adorer. nous trouvons en elle notre joie avec le bienheureux Paul qui s'écrie « Loin de moi la pensée de trouver ma gloire ailleurs que dans la croix de Jésus-Christ, notre Seigneur. La croix rend la lumière à l'univers entier. Elle chasse les ténèbres et rassemble les nations de l'Occident, du Nord, de la mer et de l'Orient en une seule Église, une seule foi, un seul baptême dans la charité. Elle se dresse au centre du monde, fixée sur le calvaire. Armés de la croix, les apôtres s'en vont prêcher et rassembler dans son adoration tout l'univers, foulant aux pieds toute puissance hostile. Par elle, les martyrs ont confessé la foi avec audace et n'ont pas craint les ruses des tyrans. S'en étant chargés, les moines, dans une immense joie, ont fait de la solitude leur séjour. Cette croix paraîtra lors du retour du Christ, la première dans le ciel, sceptre précieux, vivant, véritable et saint du grand roi. Alors, dit le Seigneur, apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Nous la verrons escortée par les anges, illuminant la terre d'un bout de l'univers à l'autre, plus clair que le soleil, annonçant le jour du Seigneur.
Et nous achevons ce second nocturne avec le chant du verset psalmodié. Nous entrons dans le troisième nocturne. Les psaumes du troisième nocturne vont nous maintenir dans cette même atmosphère de contemplation du Christ mourant sur la croix. Il meurt alors que la ville de Jérusalem est livrée à la discorde et à la violence, dit le psaume 58. Il crie sa détresse et sa solitude alors qu'il est déjà compté parmi ceux qui descendent dans la fosse, psaume 87. Et psaume 93, il meurt afin que l'héritage du Seigneur, le peuple d'Israël, ne soit pas abandonné, même si les impies semblent triompher.
Oui, c'est Dieu ma citadelle, le feu de mon amour, le Dieu de mon amour vient à moi. Dieu me fera voir ce qui m'inquiète. Oh, notre bouclier.
Le second psaume de ce nocturne est le psaume 87. Tu as éloigné de moi mes proches et mes amis. Le troisième et dernier psaume de ce nocturne, le psaume 93, il s'acharne contre la vie du juste et condamne le sang innocent.
S'attaque à la vie du juste et le sang innocent, on le condamne.
Mais le Seigneur est pour moi une citadelle et mon Dieu le rocher de mon refuge.
Ils retournent contre leurs méfaits et pour leur malice il les fait taire. Il les fait taire, le Seigneur notre Dieu.
Rendons gloire au Père Tout-Puissant,
lecture patristique de ce troisième nocturne, c'est un texte de Saint Germain de Constantinople qui nous invite à méditer le mystère de la croix comme une recherche inlassable de l'homme par le Christ qui est venu non pour le juger mais pour le sauver.
Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière et sur les habitants du sombre pays, une lumière a resplendi, la lumière de la rédemption. En voyant le tyran blessé à mort, il revient des ténèbres à la lumière. De la mort, il passe à la vie. La victoire de Jésus seul est le salut de ceux qui, par leur faute, s'étaient éloignés de lui. Le bois de la croix porte celui qui a fait l'univers. Celui qui y est fixé est celui-là même que le patriarche autrefois avait vu au sommet de l'échelle. Subissant la mort pour ma vie, il est fixé au bois comme un mort. Celui qui porte l'univers, il rend le souffle sur le bois, celui qui insulte la vie aux morts. La croix ne lui fait point honte, mais comme un trophée atteste sa victoire totale. Il siège en juste juge sur le trône de la croix.
Les réponses font écho à la lecture en invoquant le dialogue entre Jésus et le bon larron dans ce premier répond. Écoutons maintenant le deuxième extrait de ce sermon de Saint-Germain, évêque de Constantinople.
Sermon de Saint-Germain de Constantinople. La couronne d'épines qu'il porte sur le front confirme sa victoire. Ayez confiance, j'ai vaincu le monde et le prince de ce monde en portant le péché du monde. Et cette victoire du Christ passe dans toute l'humanité dont il a pris les prémices. Que la croix soit un triomphe, les pierres elles-mêmes le crient, ces pierres du calvaire où, selon une antique tradition des pères, fut enterré Adam, notre premier père. Cette tradition manifeste qu'Adam fut la cause de la venue du Seigneur sur la terre, que tout le mystère de l'humiliation avait en vue son rappel et son salut. Tout cela eut pour but la libération d'Adam et pour motif l'amour que son Créateur lui portait.
Le second répond, évoque l'abandon du Christ entre les mains du Père. Et le dernier texte de cette troisième nocturne, c'est tout simplement la fin du sermon de Saint-Germain de Constantinople.
Sermon de Saint-Germain de Constantinople. Adam, où es-tu? Crie à nouveau le Christ en croix. Je suis venu là où à ta recherche, et pour pouvoir te trouver, j'ai tendu les mains sur la croix. Les mains tendues, je me tourne vers le Père pour rendre grâce et d'avoir trouvé, puis je les tourne autour aussi vers toi pour t'embrasser. Je ne suis pas venu pour juger ton péché, mais pour te sauver par mon amour des hommes. Je ne suis pas venu te maudire pour la désobéissance, mais te bénir par mon obéissance. Je te couvrirai de mes ailes, tu trouveras à mon ombre un refuge. Ma fidélité te couvrira du bouclier de la croix, et tu ne craindras pas la terreur des nuits, car tu connaîtras le jour sans déclin. Je chercherai ta vie cachée dans les ténèbres, et à l'ombre de la mort, je n'aurai de repos jusqu'à qu'humilier et descendu jusqu'aux enfers, pour t'y chercher, je t'ai reconduit dans le ciel.
Le dernier répond, reprend un verset majeur de saint Paul, qui est comme le fil conducteur de toute la liturgie de ces jours. Le Christ s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Ainsi s'achève l'office des ténèbres, proprement dit. La liturgie va se poursuivre maintenant par l'office de l'aude, en entrant directement dans cette liturgie des laudes avec le psaume 50.
Pas de moi ton esprit saint.
Rends-moi la joie de
ton salut, assure en moi un esprit magnanime. Aux pécheurs j'enseignerai tes voies, à toi se rendront les égarés.
Affranchis-moi du sang, Dieu mon sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange.
Tu ne prendrais aucun plaisir au sacrifice, si j'offre un holocauste, tu n'en veux pas. Mon sacrifice, c'est un esprit brisé, d'un cœur brisé et broyé, tu n'as point de mépris.
Veuillez accorder à Sion le bonheur, et rebâtir Jérusalem en seigneur.
Tu te plairas au juste sacrifice, holocauste et totale oblation. On offrira des taureaux sur ton autel.
Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il a
Après le psaume 50 vient le cantique de l'Ancien Testament, ce matin le cantique d'Habacuc. Seigneur mon Dieu, tu es ma force. Psaume 96, Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Comme à chaque office de l'Aude, va retentir maintenant le cantique de Zacharie.
Thank you.
C'est avec ce cantique de Zacharie que nous allons en quelque sorte abandonner la liturgie des Laudes de la communauté des Béatitudes en direct de Blagnac. Les Laudes sont presque finies, il reste encore le Notre Père, une prière liturgique et puis ensuite une oraison, je pense. Nous étions donc depuis 8 heures ce matin dans la chapelle Sainte-Catherine pour suivre avec vous et j'espère prier avec vous cet office de ténèbres et de l'aude de ce vendredi saint. Il est 9h30 et nous allons maintenant retrouver Emmanuel Pelat et ses invités de ce matin, le père Michel Martin Prével, que vous avez déjà eu la chance d'entendre depuis cette semaine, et puis frère Henri, qui est également un frère de la communauté des Béatitudes. Le thème va porter sur la vie charismatique. C'est intéressant parce que quand on vient de vivre un office comme celui-là, on se demande où est la vie charismatique aux Béatitudes, père Michel. Mais vous allez nous expliquer ça certainement.